Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, les confidences savoureuses de Jane Birkin à l'occasion de la parution de ses carnets intimes. Stephen Bellery a rencontré la chanteuse, le papa de Kirikou. Michel Oslo sera de retour mercredi en salle avec un nouveau film d'animation intitulé Dilili à Paris. C'est le choix de Stéphane Boutsock. Et rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des places de cinéma ainsi que des albums illustrés pour découvrir l'histoire de Dilili. Une idée de sortie, si vous êtes à Paris, les peintres Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele, enfants terribles et scandaleux, morts foudroyés à 27 et 28 ans, sont à l'honneur de la fondation Vuitton dans la capitale, à suivre la visite guidée de cette expo à deux têtes avec Sophie Orange. Et puis on jettera un œil à nos programmes de ce lundi soir avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Ex-femme de 60s, petite baby doll. Tu dansais bien le rock and roll.
Et cette rencontre pour débuter ce Laissez-vous tenter, Jane Birkin publie ses carnets intimes, un ouvrage qui couvre les années de 1957 à 1982. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré la comédienne et chanteuse pour évoquer ses Monkey Diaries.
Journaux d'un singe, littéralement. Depuis l'âge de 11 ans, chaque soir ou presque, Jane Birkin a couché sur le papier ses réflexions, ses tourments, futiles ou profonds. Plusieurs billets débutent par un « Cher singe, qui est donc ce singe ?» Confidence de l'ex-fan des 60s.
C'était un singe en peluche que mon oncle avait gagné à une tombola dans un pub, je crois. Il était très vulgaire, un sourire moqueur, il avait une barbe blanche et puis un chapeau écossais comme les jockeys. Il avait une paire de pantalons qui était, je pense, au début rose. Par fur et à mesure, il est devenu plus beau. Sur la couverture de Melody Nelson, déjà, il est très entamé. J'ai tant pleuré sur sa barbe qu'il est un peu plus destroyed, mais ce personnage était celui que je gardais avec moi tout le temps. Je pense que j'ai emmerdé tout le monde avec mon singe.
Et ce singe, aujourd'hui, il est...
J'ai mis dans le coffre de Serge.
Dans le cercueil de Serge.
Ouais. Je savais qu'il voulait toujours mon singe, qu'il avait toujours son œil dessus. Et je me suis dit, ça réconforterait peut-être qu'il soit dedans. Au moins, je sais où il est. Je ne l'ai jamais perdu, en fait.
Ce que je suis à 12 ans, je le suis encore aujourd'hui. Je reste très infantile, écrit Jane Birkin dans les premières pages, et d'ajouter « Je comprends mieux pourquoi mes amours n'ont pas résisté ». Au fil du livre, elle évoque longuement ces trois hommes de sa vie. L'absent, le compositeur John Barry, l'incandescent Serge Gainsbourg et le dernier, le réalisateur Jacques Doyon. Ils ont bien plus marqué son existence que ses chansons et ses films. À propos de ses expériences professionnelles, elle confie d'ailleurs « Il me fallait les vivre, on ne reconnaît le bonheur qu'après ». Et on sait enfin pourquoi Jane est toujours restée Birkin. Par loyauté, griffonne-t-elle pour ses parents qu'elle a toujours vénérés, mais pas seulement.
Personne ne peut dire mon nom tel qu'il est. Donc je trouve que c'est plus joli. En anglais, Birkin, c'est un peu austère. Alors que Birkin, Birkini, James Birkin, Jeans, Birkin, bikini, tout est léger. Je trouve ça plus joli.
Alors joli, c'est un mot qui revient dans une phrase clé de ses mémoires, Stephen.
Oui, à la lecture de ce Monkey Diaries, on a l'impression que Jane Birkin a construit une relation complexe avec son physique. Elle décrit notamment une séance photo avortée avec Claude François. Je cite cet atroce chanteur satiné. Birkin, icône de la mode, irrésistible beauté lâche. Je crois que j'étais jolie, mais pas plus que ça.
Oui, ça c'est vrai, oui. C'est lucide plutôt. D'où la misère parfois, parce que je sais très bien. Françoise était sublime.
Françoise Hardy ?
Oui. Je gardais quand même un crayon en dessous mon oreiller dans le cas où que John Barry se réveille dans la nuit et qu'il verrait que je n'avais pas des yeux énormes. C'était quand même un trou à ce point qu'il ne me trouverait pas jolie. Et puis, il y a des années 60 où franchement, je trouve beaucoup trop de maquillage, beaucoup trop de déguisement, des yeux comme des marguerites, une sorte de fausse lèvre supérieure pour faire boudeur. Quand je vois ces couvertures, je trouve ça tellement pas intéressant parce que c'est pas la vraie personne.
Mais vous racontez quand même dans le livre, un moment, le jour de la mort d'Edith Piaf, qu'on vous confond avec Françoise Hardy dans la rue.
C'était chic ça, c'était gay.
Premier casting, je suis montée sur scène, j'ai oublié tout le texte, j'ai eu le rôle, j'avais 17 ans. Un premier mariage raté, l'arrivée en France et la rencontre avec Serge Gainsbourg. Tout commence par un slow raté.
Je crois que c'était chez Régine. Je sais qu'il m'a marché sur les pieds. De découvrir, en fait, qu'il était une personne tout à fait pudique et tout à fait avec carapace. Tout ce que les gens m'avaient dit avant. Arrogant, méprisant. Il avait cette réputation-là, quand même, quand je l'ai connu, comme un perroquet. De savoir que ce perroquet, en fait, était doux comme tout, qui avait lui aussi été blessé l'année d'avant par une affaire de cœur avec Bardot. Moi, je sortais d'une affaire blessée avec John.
Et alors, il y a cette folle soirée à Pigalle.
C'était moi, je voulais savoir tout à propos de tout. Et je voulais aller dans un bordel, en fait. Un claque. Donc, on est parti à Pigalle. Serge un peu nerveux et moi enthousiaste. Cette histoire-là, plus le poupée gonflable, sont des moments où je trouve qu'on rigole pas mal.
Je vous laisserai découvrir la scène dans le bordel, elle est hilarante.
Bah là, évidemment, vous êtes bon vendeur. Hein. Alors, la relation entre Serge Gainsbourg et pourtant, avec Serge Gainsbourg, est réellement chaotique.
Oui, un peu « Je t'aime, moi non plus », tube mondial, d'abord chanté avec Bardot en 67 et réenregistré avec Jane Birkin 2 ans plus tard. D'ailleurs, pourquoi lui avait-elle dit oui ?
Bah parce que je voulais pas qu'il chante ça avec quelqu'un d'autre. Parce que les possibilités de tomber dingue de Mireille Darc dans un petit studio d'enregistrement que j'imaginais toujours comme la taille d'un kiosque de téléphone me semblait infiniment dangereux. Donc évidemment, j'ai dit oui.
J'ai pris une octave au-dessus, naturellement. Est-ce que ce jour-là, vous êtes devenue chanteuse, Jane ?
Bah, je suis devenue l'interprète de Serge à cause de cette voix pratiquement de garçon de chorale. Ça lui a plu et je savais qu'il avait trouvé ma voix.
Il a une allure très bizarre, mais je l'aime. Il est si différent de tout ce que je connais. Assez dégénéré, mais pur en même temps, écrit Jane Birkin à propos de son deuxième amour. Les pages consacrées à Gainsbourg sont d'une très grande délicatesse, jusqu'à cette gifle dans un restaurant.
Moi, je l'ai giflé en premier. Après ça, il m'a giflé. Je pense que j'ai essayé d'éteindre ma cigarette encore allumée sur lui. Enfin, je veux dire, c'était de bon guerre.
Parce que quelques lignes après, vous dites « Serge était si doux et gentil ». C'est la même nuit.
Mais oui, parce que c'était juste un engolade comme ça. Sans doute que moi, j'étais très éméchée aussi et je lui ai fait le premier gifle, je crois.
Donc, vous ne lui en avez pas voulu ?
Oh ben non. Non, et même dans notre séparation, il a été très, très digne.
Monkey Diaries, les carnets intimes de Jane Birkin viennent de paraître chez Fayard. Un deuxième volume devrait sortir l'an prochain. C'est pudique, touchant, émouvant, tout Jane Birkin en soi. La chanteuse reprend la route ce soir avec son concert Gainsbourg Symphonique. Des dates partout en France jusque fin mars.
Et ces confidences si particulières étaient recueillies par Stephen Bellery. Dans quelques instants, nous allons parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque et vous aurez notamment vos audiences télé du week-end.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h10, nos audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, on prend les mêmes. On recommence vendredi la rediffusion des Petits Meurtres 2 de France 2 devance de quelques 260 000 téléspectateurs. La finale de Ninja Warrior sur TF1, ce qui nous donne 3 700 000 cures fidèles contre 3 450 000. Situation inversée samedi. La Une et Danse avec les Stars l'emporte de peu devant le polar de la 3 Crime dans le Luberon, 4 700 contre 4 400 000. Quant à hier, c'est logiquement la comédie Retour chez ma mère qui l'emporte nettement sur TF1, 6 700 000 personnes et 29% du public étaient sur la Une, devant les Inoxydables, enquête de Murdoch sur la 3. Alors, et zone interdite quand même 2 400 000 pour un dossier très difficile sur les EHPAD et les personnes âgées. C'est un résultat intéressant.
Ce soir, outre L'Amour dans le Pré sur M6 que vous aimez, et formidable. Nous aussi d'ailleurs, outre le doc de France 3 sur Trump vu par Frédéric Mitterrand, ça doit être pas mal non plus, vous avez apprécié le magazine Stupéfiant qui est proposé à 22h40 ce soir sur France 2.
Oui, et pourtant, j'aime autant vous dire, je suis pas une inconditionnelle. Oui, la spéciale initialement prévue sur Michael Jackson étant reportée à lundi prochain, l'émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à l'art de la parole, à l'éloquence, voire au sens du clash. Prévue le 1er octobre, elle avait évidemment été déprogrammée suite au décès de Charles Aznavour. J'ai adoré certains passages, comme celui où l'orateur genevois Marc Bonnand avoue qu'il a recours à des astuces en cas de flottement cérébral.
Lorsque j'aventure un propos dont je ne suis pas certain, je dis volontiers comme l'a écrit Rousseau. Rousseau n'a jamais écrit rien de semblable, mais je donne de l'autorité à mon incertitude.
Donc vous mentez.
Oui.
Avec aplomb.
Oui.
Voilà. L'invité de l'émission, c'est Fabrice Luchini qui glisse une petite boutade à propos de sa technique d'expression.
Vous alternez je veux et en même temps je laisse des respirations. Talent féminin, quoi. Vous laissez l'autre.
Parce que je suis une femme que vous avez acceptée, non ?
Ça a joué. J'ai le droit de le dire ça ou je vais aller en zonzon ?
Me too. Attention.
Voilà. Selon lui, le savoir et lui-même, ça se mérite. Il évoque donc ses rapports particuliers avec son public.
Je leur propose un contrat. Voilà. Je ne vous vends pas du one-man show sociétal. Je ne vous dis pas, alors la femme m'a dit, oh, t'as une petite teub. Mais non. Non, moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est Peggy, c'est Marx, c'est Freud. Et c'est un effort. Si vous ne venez pas pour faire un effort, il y a plein de spectacles. Donc, c'est un effort. Et il y a une récompense, plus de connaissances.
Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est donc à 22h40 ce soir sur la 2.
Merci beaucoup, Isabelle. Alors, cela faisait 6 ans que Michel Oslo préparait son nouveau film d'animation. Le papa de Kirikou est donc de retour mercredi au cinéma avec Dilili à Paris. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Présentez-nous cette petite fille qui donne en fait son prénom à cette histoire.
Dilili, c'est une petite canaque montrée comme une attraction dans le décor africain de l'exposition universelle de Paris. On est à la Belle Époque. En compagnie d'Aurel, jeune livreur en triporteur, elle va découvrir qu'un mystérieux groupe qui s'appellent les mâles maîtres, enlèvent les filles de la capitale pour les empêcher d'aller à l'école. Féministe avant l'heure, Dilili est aussi une pionnière de la lutte contre la discrimination et avec Aurel, elle va croiser tous les artistes, chercheurs, inventeurs des années 1890-1910, de Gustave Eiffel à Monet en passant par Pierre Curie, Rodin ou le prince de Galles, sans oublier, évidemment, les femmes qui en ce temps-là osent revendiquer leur droit à briller, elles aussi. À un siècle de distance, Michel Oslo a donc signé un film furieusement de son époque.
Quand on commence à lire un peu précisément les nouvelles et quand on se penche sur des ouvrages consacrés à ce sujet, on en perd le sommeil. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. J'apporte ma pierre à l'édifice. Ce refus de l'éducation aux filles, elle est universelle et elle existait très bien en 1900 en France. Et les gens convenables disaient vraiment « Non, une fille ne doit pas avoir la même éducation qu'un garçon ». Et les femmes qui sont sorties du lot, c'est à la force du poignet, mais ces personnages que je montre, comme Marie Curie, Louise Michel et Sarah Bernhardt, elles sont parties de rien.
La patte, le style Oslo est là, reconnaissable immédiatement. Kirikou, Azur et Asmar, les contes de la nuit. Depuis 40 ans, cet orfèvre de l'animation dessine une œuvre particulière qui est célébrée dans le monde entier, rendant hommage hier à la culture africaine ou musulmane, cette fois occidentale. Nouveauté avec Dilili à Paris, il a en fait intégré ses dessins dans des décors basés sur de vraies photos de ce qui reste du Paris de la Belle Époque. Alors c'est un procédé qui est un petit peu déroutant, c'est vrai, au début du film, et puis très vite, fascinant et somptueux à regarder.
Le dessin, c'est ce que je sais faire. Donc les personnages sont de l'animation pour les décors. Les photos se sont imposées parce que la réalité est belle et autant le savoir et autant l'utiliser directement. Paris est une très belle ville. L'extérieur, l'intérieur, les objets art déco, tout ça, c'est bien fait par des artisans qui ont vraiment travaillé toute leur vie. Il n'est pas question de les repeindre avec une petite palette graphique. J'ai pris des photos d'une splendeur réelle qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut toucher. Voilà, les photos, c'était une évidence.
Alors, parmi les personnages que la petite Dilili va croiser dans son périple, Stéphane, il y a notamment Emma Calvé, une cantatrice.
Oui, elle va aider l'enfant à retrouver la piste des filles enlevées jusque dans les égouts de Paris. Cette cantatrice, eh bien, c'est Nathalie Dessay qui l'incarne vocalement. Elle avait déjà prêté son timbre unique à un perroquet, c'était dans le film d'animation Rio 2.
Ah, j'adore. Moi, je ne rêve qu'une chose, c'est qu'on me propose plus de dessins animés. Parce que je sais faire plein de voix. Je sais faire des voix comme ça. Je sais faire des accents aussi. L'accent du sud-ouest, par exemple, parce que je suis sud-ouest moi-même. Je sais faire des voix très différentes. Donc, je sais jouer avec ma voix. Je suis très souple et j'adore ça. Je trouve ça très rigolo. Et chaque fois que j'ai fait du doublage, pour le peu de fois où j'en ai fait, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie.
La sublime cantate composée par Gabriel Yared pour Dilili à Paris, interprétée évidemment par Nathalie Dessay. Le film sort mercredi au cinéma avec RTL.
Et nous vous faisons gagner des places pour aller voir vous aussi le film, mais aussi des albums illustrés par Michel Oslo, qui raconte l'histoire de Dilili pour les petits et les grands, édité chez Casterman. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
À quelle période se déroule le film? Est-ce à la Belle Époque ou durant le Front Populaire?
Réponse au 32-10.
RTL, laissez-vous tenter, 9h17.
On visite une magnifique exposition dans quelques instants avec Sophie Orange.
RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi.
Bon.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir ce matin une nouvelle exposition événement à la Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne à Paris. Deux artistes très différents sont réunis, Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele, et c'est surprenant.
Vous avez raison, en fait, tous les opposent a priori. L'époque déjà, l'un, Schiele, a peint, dessiné dans la Vienne effervescente du début du XXe siècle. L'autre, Basquiat, dans le New York des années 80. Le premier est reconnaissable à son trait plutôt fin, sur des petits et moyens formats, une ligne économe mais bouleversante. Le deuxième utilise beaucoup les crayons gras, très appuyés sur des grands formats, et il étale même parfois directement la peinture à la main, directement sans pinceau. Schiele laisse du vide, de l'espace dans ses tableaux. Basquiat, au contraire, il remplit quasiment tout avec beaucoup de couleurs. Que font-ils donc ensemble? Et c'est bien à la fois le mystère et la réussite de cette exposition. Premier point commun, les deux sont morts quasiment au même âge, 27-28 ans, dans des circonstances tragiques. Grippe espagnole en 1918 pour le peintre autrichien, mort par overdose en 88 pour l'américain. Une même carrière fulgurante donc. Deuxième point commun, les deux avaient un maître, Klimt pour Schiele et Warhol pour Basquiat. Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation Vuitton, nous propose d'autres pistes de réflexion.
Alors l'un et l'autre partageaient quand même une fulgurance exceptionnelle, un talent exceptionnel aussi de dessinateur. Ils se rejoignent, ils ont une même détermination dans une détresse totale. Pour moi, ils sont très très proches, mais en eau profonde. Ce qui me touche aujourd'hui, c'est qu'ils se sont octroyés, de fait, une mission qui a été vitale pour eux. Un rôle qui les dépassait, presque, oui, d'ordre christique, c'est-à-dire Basquiat, il se présente très souvent avec une couronne d'épines. L'autre s'est représenté comme prophète. L'un et l'autre se sentent devoir assumer une mission qui les dépasse.
Alors bien sûr, ils ont chacun leur écriture, mais franchement, ils dégagent une force émotionnelle très très forte.
Les deux artistes sont exposés ensemble ou séparément ?
Alors séparément, mais on aurait aimé, c'est vrai, les voir ensemble. Mm-hmm. Quelques autoportraits côte à côte, pourquoi pas ? Parce que franchement, il y a quand même des points communs, ou en tout cas, une envie de les comparer. Oui. Vous découvrirez d'abord les dessins, les aquarelles d'Egon Schiele qui vont vous accrocher le regard et le cœur. Des corps de femmes, d'hommes, parfois nus, parfois habillés, certains presque morts-vivants, une détresse totale, des jambes, des torses déformés, des postures indécentes qui vous submergent et vous transpercent. Le corps, on le retrouve évidemment bien sûr aussi chez Basquiat, plus exactement la figure noire qu'il a imposée dans ses tableaux. Basquiat, quand il allait dans les musées petits, il ne voyait que des blancs. Et donc ça l'a marqué toute sa vie. Et donc il dessine des boxeurs noirs, des musiciens noirs, mais aussi des victimes du racisme ou de la brutalité policière, des guerriers, des héros. Basquiat, un artiste engagé pour Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault, président de la Fondation Vuitton, heureux d'avoir réuni autant d'œuvres qu'on n'avait pour certaines jamais vues.
À l'arrivée, vous avez un choc en découvrant les trois têtes de Jean-Michel Basquiat, donc des têtes de mort qui vous regardent, ce qui est assez particulier, mais bon, c'est un tour de force d'avoir réuni ces trois œuvres. Et la dernière œuvre, qui est une œuvre qui était totalement inconnue des spécialistes eux-mêmes, et qui est l'œuvre ultime de Jean-Michel Basquiat, qui annonce sa disparition. Et c'est une œuvre qui va, je pense, marquer les esprits, le grand public, mais aussi les spécialistes.
Et parmi ces trois têtes de l'entrée, ce choc, le Basquiat le plus cher du monde, un tableau sans titre à plus de 110 millions de dollars, acquis par un collectionneur japonais l'an dernier, et vous le verrez donc dans la Fondation.
Il s'affirme année après année comme un maître de l'histoire de l'art. Donc il est à l'égal, petit à petit, des plus grands, peut-être de Picasso, de Matisse, enfin en tout cas, il a inventé un style nouveau. Il s'engage comme personne.
Jean-Paul Claverie reconnaît donc que Basquiat affole le marché de l'art. 110 millions de dollars, on atteint là des sommets. Une cote inouïe pour celui qui n'arrivait pas à être exposé à son époque dans des galeries. En fait, vous allez visiter deux expos en une, mais évidemment sans penser au prix des tableaux, on n'est pas là pour ça. Il faut plutôt chercher les détails. Ce boxeur noir, levé, les bras levés, est victorieux, mais en fait dont la mâchoire est recouverte d'une grille, cet œil injecté de sang. Ici, un esclave représenté par une tête de mort. Il faut admirer l'éclat des couleurs et cette Joconde version Basquiat, Schiele, Basquiat, tous deux adeptes d'autoportraits portrait différent mais quand même similaire, un choc à ne pas manquer à la Fondation Vuitton jusqu'au 14 janvier prochain.
Merci beaucoup Sophie Orange. Dans quelques instants, nos cadeaux habituels avec Stéphane Boutsock. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
La la cantate de Gabriel Yared. Pour le film de Michel Oslo, Dililé à Paris, nous vous posions cette question. À quelle période se déroule le film? Est-ce la Belle Époque ou durant le Front Populaire?
Stéphane Boutin. C'est la Belle Époque. Encore une fois, vous verrez dans le film les photos de ce qui reste du Paris de cette époque-là, avec les dessins de Michel Oslo dedans.
Et vous gagnerez, en plus des places de cinéma, nous sommes d'accord, l'album.
Oui, eh ben édité voilà. Chez Casterman.
Vous nous avez appelé au 3210. Demain, émission tout à fait spéciale, puisque nous célébrerons le 40e anniversaire de la disparition de Jacques Brel. Et nous entendrons notamment les premiers extraits de l'album posthume de Morane.
Qui reprend Brel, évidemment. C'est un album qu'elle était en train d'enregistrer quand elle est décédée. On entendra également sa fille Lou, qui a porté le projet pendant ces derniers mois pour que l'album sorte.
Merci beaucoup, Steven. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Julien Courbet.
Merci, les infos. Merci beaucoup. Beau boulot encore aujourd'hui, comme chaque jour d'ailleurs.
Vous écoutez RTL.